Notre prochain invité est honorable. C'est rare qu'on reçoive des gens qualifiés du titre honorable dans cette émission, mais c'est le cas de notre prochain invité qui est Chantal Petitclerc, ancienne athlète paralympique et maintenant sénatrice indépendante de Granville. Et c'est pour ça qu'elle a reçu le titre d'honorable. Bonjour, Mme Petitclerc.
Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir.
Est-ce qu'on s'habitue à ce titre-là d'être honorable?
Écoutez, c'est trop drôle parce que, évidemment, au départ, j'étais très... j'avais beaucoup de mal avec ce titre-là et je continue de le prendre. En fait, c'est drôle parce que après 5 ans au Sénat, je me développe quand même un énorme respect pour l'institution et ce qu'on essaie d'en faire. Donc, je suis assez fière d'être honorable. Ceci dit, je suis assez humble là-dedans. Et vous disiez, c'est rare, vous avez des invités qui portent le titre. Mais bon, le titre n'est qu'un titre. Là, vous avez beaucoup d'invités qui sont très, très honorables.
Mais je faisais tout à l'heure mention de... Évidemment, on vous connaît tous parce que vous êtes une athlète de réputation internationale avec... un palmarès impressionnant, 21 médailles paralympiques, 14 médailles d'or. Quand vous regardez les Olympiques en ce moment, est-ce que vous, quand on a connu le succès que vous avez connu, est-ce qu'on regarde ça d'un œil particulier, les Olympiques?
Ben, je pense que oui, c'est sûr, parce que on regarde ça avec notre bagage. Et donc, il y a un côté de nous. Moi, je regarde des épreuves, je regarde des victoires, des contre-performances, des déceptions. Et je sais pas exactement ce que chaque individu ressent, mais je le sens un petit peu. Même ce matin, je regardais la fin du 1500 mètres de Warner au Décathlon, puis je me disais, OK, il l'a. Je savais, je regardais son regard, je regardais son langage, la façon dont il courait, puis je me disais, OK, ce gars-là, il est tellement en contrôle.
C'est ça.
Exactement qu'il est en train de gagner une médaille d'or.
Ouais.
Donc, c'est sûr que il y a autre chose. Et des fois aussi, je regarde des athlètes, puis les gens, je lis les commentaires des médias, et je me dis, oui, mais ils sont préparés. Oui, il y a la pression, mais ils savent à quoi s'attendre, ils sont prêts. Ça n'empêche pas une certaine, des fois, déception. Ça n'empêche pas que, des fois, on perd le contrôle comme athlète. Mais bref, écoutez, je suis assez passionnée de tout ça, c'est sûr.
Mais...
Puis c'est beau à voir.
Ouais.
Ça me rappelle des beaux souvenirs. Puis ça me manque, des fois.
Ah oui, c'est ça. Mais j'allais dire, justement, vous qui avez fait du sport pendant presque toute votre vie, là, est-ce que vous en faites toujours? Quand on arrête d'être athlète de haut niveau puis de participer à ces niveaux-là dans des compétitions, est-ce qu'on peut s'arrêter complètement ou si on continue à s'entraîner et à faire des sports?
Écoutez, on peut, mais on le regrette. Et là, vous me pognez, là, je veux dire, vous me pognez dans un moment de ma vie où je suis dans un petit retour de mise en forme parce que la pandémie a été bizarrement... Ouais. Ben, écoutez...
Ça a été difficile pour vous?
Ça a été difficile à la maison, ça a été difficile comme plein de monde, hein. Mais il y en a qui se sont lancés dans le sport et moi j'ai rien fait, là, je vais être très honnête avec vous. Et là, j'en paye le prix parce que tu sais, des fois on dit le cordonnier
mal chaussé,
mal chaussé, ces expressions-là. Et là, je suis là-dedans, j'avais mon petit bonhomme à la maison comme tout le monde, plus de parascolaire, plus de sport pour lui. Et là, j'ai mis vraiment beaucoup toutes mes énergies pour m'assurer que lui n'aurait pas d'effet négatif de cette pandémie-là. Ce qui veut dire que
vous êtes oublié un peu.
Je me suis oublié un petit peu. J'ai pris un petit peu plus de vin. Donc là, j'ai quelques kilos à perdre. Mais c'est surtout que je me dis, et c'est peut-être un petit peu ça, je me dis, mon Dieu, tu sais, gestion du stress, sommeil, se sentir bien. Le sport, là, j'ai toujours dit comment c'est important, mais là, je le sens, là.
Ouais, c'est ça.
Mais je suis là-dedans. J'en parle avec un sourire parce que justement, là, ça fait 3 semaines, 1 mois où j'ai une petite reprise d'activité physique et déjà, j'en sens les bienfaits.
Ouais. Mais j'allais dire, quand on a fait, comme vous, là, des temps extraordinaires, je ne sais pas si vous vous entraînez de la même façon ou dans le même type de sport que vous faisiez, est-ce que vous avez tendance à essayer de refaire les mêmes performances que vous faisiez à l'époque ou si vous vous dites, faut être réaliste?
Non, mais ça a été mon problème. Et je dois dire que quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je vais faire de la course en fauteuil pour le fun.
Ouais.
Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était juste pas le fun parce que à 4-5 fois semaine, là, tu sais, j'avais pas de vitesse, j'avais pas de. Puis j'arrêtais pas de me comparer. Je comparais tout, là, les distances, la vitesse de pointe. Et là, j'ai changé pour le vélo à main qui était un sport différent pour moi.
Pas bête de dire, là, j'ai pas de référence, c'est ça.
J'ai pas de référence, fait que je me trouve bonne. Mais je dois dire, la semaine passée, j'étais avec mon petit bonhomme de 7 ans, puis on était à vélo tous les deux, et là, je disais, OK, on est à 16, on monte à 17. Puis là, je me disais, OK, Chantal, arrête un peu, là, il y a 7 ans.
Avez-vous tendance à le pousser, oui? Ben, d'abord, est-ce qu'il est intéressé par le sport?
Oui, il est intéressé par les multisports, là. Tu sais, moi, je suis dans le multisport, je veux pas le forcer à rien faire. On fait du tennis, de la natation. Puis là, depuis cette année, on se fait du fun à vélo parce que là, il est capable de faire des 15, des 20 kilomètres, puis on roule à des petites vitesses, là, 17 kilomètres heure. Fait qu'on a comme du plaisir. Moi, je tripe au bout. Et là, je me dis, OK, tu sais, c'est pas, faut pas, là, des fois, je donne des vitesses moyennes, mais à la fin, je me dis, Chantal, ça a pas d'allure. En même temps, il aime ça. C'est plus des petits défis, là. Tu sais, c'est avec beaucoup de légèreté, tout ça.
Ouais. Non, il ne mettait pas de pression, mais là, une fois de temps en temps, il dit, ben moi, j'ai 21 médailles paralympiques puis 14 médailles d'or. Mais je te mets pas de pression.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est une affaire. Et, ben, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Puis vous l'avez peut-être déjà dit ou je ne sais pas prononcer là-dessus. Mais moi, c'est quand je vois ça, médailles paralympiques, je me suis toujours demandé, parce que votre sport là, que vous faites, là, mm-hmm. C'est physiquement, c'est exigeant en s'il vous plaît. Là. Pourquoi c'est pas placé dans les Olympiques normales?
Mm-hmm. Ben, écoutez, je dirais que les raisons là, sont à la fois logistiques et politiques et commerciales. Il y a longtemps, en fait, quand moi j'ai commencé, je vous aurais répondu autre chose, je vous aurais dit il y a des préjugés. Hein, oui. Il y a des préjugés contre les athlètes paralympiques, on les trouve bons, on les trouve courageux, mais on trouve que on les considère pas comme des vrais athlètes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus là-dedans dans la plupart des pays, pour la plupart des médias. Je regarde le traitement des athlètes paralympiques ici au Canada, et puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que moi, que Benoît Huot, que les athlètes paralympiques, on parle de haute performance, on fait partie du système de haute performance ici au Canada, avec à nous le podium, avec les fédérations, mais reste que là, on a deux organes, et puis je pourrais vous faire une réponse d'une demi-heure, là, mais on a deux organisations internationales, Comité olympique, Comité paralympique, avec des priorités différentes, avec des commanditaires différents. Donc, il y a ce côté commercial-là, il y a le côté un peu politique aussi, où le Comité olympique dit, OK, on a un mouvement, on a des jeux qui sont déjà comme 10 000 athlètes des fois. Là, on rajoute 4 000 athlètes paralympiques. Au niveau de la logistique, ça se peut même pas. Quoique, si on le voulait, ça pourrait. Ben là. Mais on dit, on rajoute une semaine, on rajoute... Tu sais, il y a tout plein de raisons pratico-pratiques comme ça. Jusqu'à quel point c'est solide, je pourrais pas vous dire, mais c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a aussi le fait, et ça, je trouve que c'est intéressant... Il y a le fait que le Comité paralympique, avec ses commanditaires, avec sa présidence, avec son développement, en fait, avec son branding qui s'est développé, se dit, est-ce que vraiment on veut aller aux Olympiques? Moi, je continue de penser que oui, ce serait une bonne idée, mais
c'est parce qu'il n'y aurait pas plus de visibilité?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ben, c'est sûr qu'il y aurait plus de visibilité, c'est sûr. Mais en même temps, d'autres vont dire, est-ce qu'il y en aurait tant que ça plus? Est-ce que même en faisant partie des Olympiques, le 100 mètres en fauteuil roulant serait un petit mardi matin, alors que le 100 mètres debout serait le vendredi soir? Tu sais, on ne sait pas ça, mais on se veut de la réponse.
Ouais,
donc,
exact.
C'est pas simple. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la place pour plus de visibilité, ça c'est sûr. Il y en a de toute façon. Mais tu sais, moi qui ai fait les Jeux olympiques là, en sport de démonstration, je sais c'est quoi gagner une médaille, même en démonstration aux Olympiques. Je sais c'est quoi les retombées de ça, la couverture qu'on a, le nombre de personnes qui nous ont vus en direct. Donc, je veux dire, c'est sûr que moi, je vais toujours continuer à dire que l'inclusion serait optimale, mais...
Parce que là, moi, je trouve que c'est comme si on disait on aime beaucoup ça, les Jeux paralympiques, mais pas avec nous autres, tu sais. Je veux dire, sont fins, mais pas que nous autres, tu sais. Je trouve que ça fait un peu... Justement, quand on parle d'inclusion, quand on parle de dire, mais c'est pas des gens qui sont différents de nous autres, là. Ils ont une réalité physique qui est différente, mais c'est des athlètes qui sont aussi méritants. Vous êtes entraînés autant. Puis quand on vous regarde la largeur des épaules puis la grosseur des bras, on a l'impression que vous êtes une vraie athlète, là.
Non, ben, je veux dire, clairement, et puis moi, je l'ai toujours dit, là, une médaille paralympique, dans des sports de profondeur, quand je regarde le nombre de pays, le nombre de participants, ça vaut une médaille olympique. Donc, c'est une conversation à laquelle, malheureusement, les athlètes, même moi, quand j'étais là, je le disais, ça a eu zéro impact. Les athlètes qui le disent encore, ça a encore zéro impact.
Ouais.
Ce que j'aime voir, parce que je suis une fille positive, ce que j'aime voir, par contre, c'est comment les athlètes paralympiques aujourd'hui revendiquent le logo paralympique, revendiquent le branding paralympique, sont fiers d'être des paralympiens. Et donc, c'est ailleurs un petit peu cette conversation-là. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant.
OK. Mais je posais la question parce que moi, je comprends que c'est pas le premier à vous la poser, mais moi, j'étais curieux d'entendre cette réponse-là. Juste avant de terminer le volet sportif, parce que j'aimerais ça qu'on parle un peu de ce que vous faites également sur le plan politique. Combien de records détenez-vous toujours? Est-ce que vous parce que les records, c'est fait pour être battu, évidemment, là, puis ça fait quelques années que vous avez arrêté.
C'est trop drôle parce que hier, justement, j'écrivais à mon coach, puis je me disais, combien de records il me reste? Et là, je me suis dit, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que quelque part, j'ai comme un petit peu décroché de ça, là.
Ouais.
Ce que j'ai comme record, c'est que, bon, je suis encore ex aequo avec un gars qui s'appelle Franz Niedlischberg, un Suisse. C'est moi et lui qui détiennent le plus de records en athlétisme paralympique ou olympique. Par ailleurs, là, avec 21 médailles, dont 14 médailles d'or.
Ouais.
Je sais aussi qu'au Canada, ça me place comme l'athlète paralympique la plus médaillée de l'histoire canadienne. Il y a par exemple un nageur dont j'ai oublié le nom, un nageur paralympique qui a une ou deux médailles de plus que moi. Mais moins d'or, effectivement.
Okay.
Et là, je m'en veux tellement d'avoir oublié son nom. C'est un athlète qui était, bon, plus dans les années 70, je pense, tout ça. Je sais aussi qu'il me reste un record paralympique, un record du monde que je partage, en fait, qui est le record du 400 mètres que je partage avec Tatiana McFadden, qui, elle, s'est donné le défi de battre mon record paralympique. Donc, on va voir dans quelques semaines Tatiana, qui est une bonne amie à moi par ailleurs, et qui va tenter de battre mes 21 médailles. Là, moi, j'arrête pas de lui dire, mais là, c'est pas juste le nombre de médailles, là, il faut que tu aies les médailles d'or aussi, sinon ça compte pas.
Vous êtes encore compétitive, c'est parfait, c'est bon.
un peu quand même. Mais je sais que je détiens encore beaucoup de records canadiens.
Il ouais.
Faudrait que je regarde, là, d'après moi, du 100 au 1500, donc...
Mais bravo, c'est tout en votre honneur, franchement. Là. Bon, parlons un peu de votre travail de sénatrice. Ça fait 5 ans, je pense, que vous êtes sénatrice.
Oui, ça fait 5 ans.
Est-ce que vous aimez ça? Parce qu'on a souvent des préjugés à l'égard du Sénat, des gens disent « ça travaille pas fort, etc.
» Écoutez, je vous dirais que c'est un peu le préjugé que moi-même j'avais. Moi, en fait, c'est pas un préjugé, mais je me disais, bon, OK, je vais faire ça, et puis ça me semble... Parce qu'on regarde, je me disais, OK, les sénateurs siègent à peu près X nombre de jours par année, donc c'est pas si mal. Mais je dois dire que, comme tous les nouveaux sénateurs, on a pogné le choc de notre vie au niveau de la charge de travail qu'on a.
Ouais.
Quand on décide de bien le faire, et je dirais que la très, très grande majorité des sénateurs décident de bien le faire. Et ça a été Bon, d'une part, la courbe d'apprentissage. Nous, on arrive là-bas, puis on nous dit « Vous êtes sénateur indépendant non-partisan ». Ça veut dire qu'on fait pas partie d'un caucus. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai comme personne qui me dit « Vote comme ça, vote pas comme ça ». Ceci dit, c'est pas comme ça que ça se passe dans les caucus non plus. Mais là, tu arrives là et oui, il faut que tu votes pour le projet de loi, mais il faut que tu le connaisses, ton projet de loi. Tu as des 400, ouais. 500, 600 pages à lire. Après ça, il faut que tu poses des questions, il faut que tu prépares des discours et il faut que tu prennes position sur des amendements. Moi, je fais tout ça avec une énorme responsabilité. Il faut dire que je suis arrivée là-bas, 3 mois après mon arrivée, je pense, c'était le premier projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Oui. Et ça, ça m'a tellement rentré dedans parce que l'aide médicale à mourir, moi, j'en connaissais, je veux dire, au niveau québécois, au Canada, mais international aussi, des personnes en situation de handicap, tu sais, qui ont eu accès à l'aide médicale à mourir, même quand c'était pas tellement légal, qui sont allées ailleurs, mm-hmm. tout ça. Donc très rapidement, je me suis dit, tu peux pas voter sur un projet de loi si tu sais pas c'est quoi. Tu peux pas voter sur un amendement si tu sais pas c'est quoi. Faut que tu y penses, faut que tu lises, faut que tu prennes position. Et des fois, faut que toi-même t'amènes des amendements quand tu le juges ouais. nécessaire.
Quand tu penses que ça peut amener quelque chose
quand
à la loi.
Quand tu penses que ça peut amener quelque chose. Et les gens ont énormément de préjugés. Et moi, je me dis, si c'est trop drôle parce que j'arrive, moi, d'un univers où tu gagnes une médaille d'or, tu fais la première page des journaux, tout ça. Et là, j'arrive dans un autre environnement où il y a des amendements vraiment substantiels qui ont été déposés, votés, qui sont passés, qui ont changé la nature un petit peu d'un projet de loi, qui ont été gardés dans le projet de loi. Ouais. Donc, le code criminel est différent à cause du Sénat. Mm-hmm. Et ça, ça a un impact réel. Mais je veux dire, est-ce qu'on va faire la première page pour ça? Jamais.
Ouais.
Sauf que quand on se dit, par exemple, le projet de loi sur le cannabis moi, j'avais beaucoup, je continue d'avoir beaucoup de problèmes.
Avec ça?
En fait, beaucoup d'hésitations. Ben, je veux dire, je suis une athlète, j'ai beaucoup ouais. d'hésitations avec le.
Avez-vous voté contre?
La légalisation du cannabis. J'ai pas voté contre, mais je dois dire que j'ai pas voté contre parce que j'appuyais beaucoup la
décriminalisation.
J'appuyais vraiment ça, évidemment, sauf que légaliser, c'était comme
l'étape
pour moi.
Ouais, c'est
l'étape qui me rendait un peu inconfortable, mais en ouais. même temps, j'ai voté pour, mais j'ai voté aussi pour plusieurs amendements.
Okay.
Entre autres, de se dire, on limite la publicité. Des amendements qui venaient de entre autres d'une collègue, la sénatrice Sinman, conservatrice, qui dit on limite l'accès, on limite la publicité, ouais. Et qui certains donc sont passés. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est que on a un rôle très, très sérieux à jouer. On a une responsabilité et quelque part, ben c'est ça, tu sais, ça demande énormément de travail aussi. Mm-hmm. Donc c'est pas simple, c'est intéressant. Il y a des jours où je dirais est-ce que j'adore ça, j'adore pas toujours ça. des fois je trouve ça un petit peu austère, un petit peu ardu. Ouais. En même temps, je me dis que d'être là-dedans aussi dans ce contexte historique ouais. où justement on est plus indépendant, moins partisan, il y a plus d'amendements qui ça, je trouve que c'est vraiment okay. fascinant parce qu'on se dit, si dans 20 ans, on va dire, OK, ça a été l'époque où le Sénat s'est transformé un peu, ben j'ai fait partie de ça.
Ben bravo. Il nous reste à peine 1 minute et demie, puis je vais finir avec ma dernière question. parce que
je parle beaucoup.
Non, mais c'est parfait. on vous a appelé pour ça. vous pouvez être sénatrice jusqu'à 75 ans. Vous avez oui. 51 ans, vous êtes toute jeune.
Oui.
Allez-vous rester jusqu'à la fin?
J'ai aucune idée, honnêtement. J'ai aucune idée. Et moi, ce que je me dis, je me suis donné un bloc de 10 ans. Tu sais, je me suis donné oui. ce défi-là de me dire, on appelle ça du service public, et de me dire, moi, je vais le faire 10 ans et je vais essayer d'amener une contribution qui... qui se passe au niveau des personnes en situation de handicap, des ouais. personnes aussi au niveau de l'accès, la santé, le sport. Et quand ça fera 10 ans, ben vous m'appellerez parce que je verrai de me dire est-ce que j'ai quelque chose de plus à apporter. Okay. Et en fait, ma réponse, c'est de dire oui, on peut être là jusqu'à 75 ans. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas une obligation. Des fois, le téléphone sonne encore pour ouais. me dire ah, viens-tu travailler ici, viens-tu faire ça dans le sport, puis je me dis, ben des fois, je pense un peu quand même, là, mais je me suis donné le défi et l'engagement ouais. de le faire. Au moins,
Chantal Petitclerc, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, puis ben bon entraînement, remettez-vous à l'entraînement, là, on a hâte de,
oui, absolument.
De vous revoir.
Merci,
au revoir. Chantal Petitclerc, ancienne athlète paralympique et maintenant sénatrice indépendante au Sénat à Ottawa.